Ok. Donc, la première question, c'est pourquoi est-ce que la Samoa s'est intéressée à l'urbanisme transitoire? Il y a plusieurs parties à la question, mais peut-être je vais commencer comme ça.
Bah, en même temps, je pense que ça va répondre aux autres questions que j'avais balayées. À l'origine, on n'avait pas conscience d'utiliser le transitoire dans le cadre d'un urbanisme transitoire en tant que méthode ou que volonté réellement exprimée. C'est vraiment venu d'une opportunité parce que en 2003, la Samoa s'est installée dans les Halalstom. C'est 16 000 mètres carrés d'emprise et à l'époque, je crois qu'ils étaient 8. Donc pour des questions assez pragmatiques, finalement, c'est dommage d'avoir tout cet espace vide, l'entretien de la toiture, ça coûte quand même des sous. Et puis aussi parce qu'on travaille avec des gens qui n'ont pas forcément peur d'endroits un peu en friche. De bouche à oreille, il y avait quand même encore des espaces de bureaux. On s'est mis à les remplir avec des locataires qui étaient d'abord des archis, des paysagistes, qui eux-mêmes ont pu avoir des copains web designers, etc. Et puis on était sollicités pour utiliser les espaces plus d'ateliers, qui craignaient pas grand-chose puisqu'ils étaient très roots, pour héberger bah, par exemple les Fichtres ou Berthaud Mieux, qui faisait partie de l'équipe d'origine d'Alexandre Chemetov. Et qui pouvait du coup produire, prototyper, construire, bricoler quoi. À l'époque, on ne disait pas prototyper, hein, on disait plutôt bricoler. C'était des gens qui pouvaient être soit très bureau classique d'archi, soit déjà dans le faire soi-même pour voir un peu ce qui pouvait se faire. Et puis, de fil en aiguille, de 2003 quasiment pendant 10 ans jusque 2013, on a héberger une cinquantaine d'entreprises différentes, des ateliers d'artistes, des expositions, des festivals du genre de celui de Scopitone. Tu dois maintenant voir un peu ce dont il s'agit. Et ça nous a permis d'observer que tous ces gens-là, mis en réseau ensemble, à travailler les uns à côté des autres, à travailler, à partager les toilettes, à partager des moments de café plus informels sur les coursives, ce genre de choses, à se dépanner, eh ben, ça pouvait provoquer des associations d'équipes de maîtrise d'œuvre pendant des concours, des projets collaboratifs culturels. Et au même moment, à l'échelle européenne, il y avait déjà des conquêtes de friches à l'aune de la culture, on va dire, ou de la culture alternative, de squat, qui ont engendré une espèce de mouvement et de littérature associée à ces mouvements-là. Et notre gouvernance politique a admis que ce qu'on appelle désormais les industries culturelles et créatives pouvaient être un levier de développement économique. Donc c'est un double effet, c'est un effet observation presque infiltré puisqu'on partageait les bureaux avec eux, et en même temps un phénomène plus large qui pouvait séduire le politique et qui a permis de booster un peu ce développement de cluster des industries culturelles et créatives. Mais à l'époque, encore une fois, on n'appelait pas ça du tout un cluster et c'était pas les industries culturelles et créatives. Il se trouve que tous pouvaient rentrer dans ces filières des industries culturelles et créatives, mais c'était pas une volonté hyper exprimée, tu vois, c'était plus par voie d'opportunité. Ensuite, quand le projet des Halles s'est un peu concrétisé, on s'est bien rendu compte qu'en tant que satellite public, à partir du moment où tu as ouvert un droit au logement à des petits entrepreneurs, même si tu es en bail précaire et que tu leur dis ça se termine, faut partir parce que le chantier va commencer. Ben en fait, tu es obligé de proposer une solution de relogement. À ce moment-là, pour des raisons de maîtrise foncière, la Samoa achète ce qui est aujourd'hui Karting Solilab, qui à l'époque étaient les établissements La Rivière. Et on s'est dit que plutôt que de démolir les halles et d'en faire des friches, ou de risquer le squat, on allait utiliser le concept de Jean-Louis Berthomieu qui avait été testé dans les Halles, de la boîte dans la boîte, qui est pour un concept révolutionnaire en soi, hein, mais ce qui était intéressant pour nous, c'était de le dupliquer et de l'utiliser dans les Halles du karting. Au démarrage, on pensait même qu'on allait le faire avec des containers maritimes de seconde vie. Puis il se trouve qu'au moment de la conception, le bois était moins cher, le développement de la filière bois devenait aussi une préoccupation locale, donc le karting est devenu ce qu'il est, pareil, de façon un petit peu opportuniste, si tu veux. Il y avait un service à Nantes Métropole qui s'appelait Nantes Création. Et comme cette opportunité, qui était déjà assez naturelle de faire travailler l'aménageur avec les gens de la culture, Jean Blaise pour le Festival des Allumés, Éric Boistard pour le Festival de Scopitone, les gens de la créative, enfin, de Nantes Création à l'époque, pour mettre en lien les créatifs avec notre possible offre immobilière, et que c'était une préoccupation politique, la Samoa a absorbé ce qui est devenu à l'époque le quartier de la Création. C'est comme ça que les locaux de Reka, qu'on a loué les locaux de Reka, qu'on a fait l'aménagement intérieur avec les métallobiles et que l'équipe de Nantes Création est devenue quartier de la Création et est devenue Samoa. On a fait cette première expérience. Là, les missions de développement économique étaient clairement affichées filière des industries culturelles et créatives, qui depuis sont devenues des communautés créatives et qui ont pu bouger dans le temps en fonction des faits territoriaux. Et on a réitéré l'expérience au Solilab. Ça, c'est la deuxième expérience. Mais là, avec une volonté politique de tester l'économie sociale et solidaire. Nous, ça nous intéressait pas mal, dans le sens où on avait une pointe de l'île peu active du point de vue travail. Elle l'était déjà avec le hangar à bananes, mais du côté festif, on va dire. Et ça nous permettait de commencer un petit peu à coloniser et activer la pointe de l'île sur une forme de mixité programmatique et de ne pas rester monocentré festif, bar, restaurant ou tourisme avec l'éléphant et le parc des chantiers. À peu près au même moment, on a acheté le commissariat Conen Mériadec, qui lui est plutôt dans le faubourg, mais qui est d'une plus petite taille et qui était, tu vois, sur des bureaux administratifs de commissariat. Et là, l'histoire a pris une autre tournure, c'est-à-dire que on a acheté ce commissariat parce que c'était un angle d'îlot et on s'était imaginé qu'on allait pouvoir déclencher, en mettant le pied dans la porte, la mutation de l'îlot pour en faire une opération immobilière plus importante. Racheter le reste des autres copropriétés de l'îlot pour pouvoir en faire un projet urbain. Sauf que ça n'a pas fonctionné et que finalement, c'est à peine 250 mètres carrés de bureaux, ça génère pas les mêmes effets collaboratifs. Ça génère pas un écosystème, un microcosme suffisant, si tu veux. Après, les colocataires de Conen Mériadec se sont très bien entendus et ont affiché la volonté de racheter le commissariat. Ils ont fait une société civile d'investissement, une SCI, et donc on leur a vendu prix coûtant le commissariat.
Il y avait qui travaillait là-dedans?
Et bien, il y a par exemple les TACT, qui est une agence d'archi, les MAP, qui est une agence de paysagistes. C'était eux qui étaient un petit peu les moteurs, si tu veux. Et puis avec d'autres, ils se sont associés, entre guillemets. Ça permet un autre parcours de développement économique. Ça leur assure un petit peu leur retraite, le fait de capitaliser sur un bien matériel.
Donc c'était vous qui l'avez acheté
En
au
premier,
départ et puis donc du coup ça a marché quand même parce que ça a créé un petit écosystème entre eux et ils ont
voilà.
acheté.
Mais nous, on n'a pas vocation, Samoa, à être bailleur, si tu veux, dans le fond. Notre mission, c'est aménageur et développement économique. L'offre immobilière de développement économique, c'est une des cartes du développement économique. Mais on ne l'aborde que par la voie de l'opportunité, de la maîtrise foncière dont l'aménageur a besoin. C'est pour ça que c'est transitoire. Parce que quand le projet urbain est mûr, le karting un jour pourrait disparaître, le Solilab un jour pourrait disparaître. Mais ça nous permet de tester à la fois des clusters d'activités économiques ou, on va dire, des usages. En 2013, donc on avait déjà Conan Meriadec, Karting et Solilab. Nantes Métropole devient Green Capital. Capitale verte avec un focus environnemental important.
C'était quelle année ?
2013. Et là, on se dit, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de faire un truc qui s'est appelé Green Island ? Un appel à projet très ouvert sur l'île de Nantes qui disait citoyens, associations, écoles supérieures, peu importe qui, peut se saisir de n'importe quel espace public a priori, voire même apporter éventuellement du privé, pour tester des usages sur les espaces publics. Ça nous permettait à la fois d'être un peu un city lab, à l'époque c'était les termes employés, living lab, de différer aussi des questions d'argent. On n'avait plus tout à fait les moyens de toutes nos ambitions. Et donc, ça réinterrogeait la réalité du besoin, finalement. Et donc, on a commencé à tester sur espace public l'engagement citoyen, les besoins. Et puis aussi, tu vois, il y avait énormément de velléités, de jardins partagés, de ce genre de choses. Et ça nous permettait de vérifier que ce n'était pas seulement un engouement fantasmé, mais qu'il y avait réellement derrière plus de 2 mecs qui en avaient envie. Et qui pouvaient dans le temps assumer aussi ça. Ça a fait l'objet de mémoires de 11 stations de Green Island, avec des choses plus ou moins réussies, des choses qui existent encore et des choses qui n'existent plus. Ça permet d'identifier des collectifs, porteurs d'idées, animateurs de réseaux. Ça a permis d'identifier des besoins réels et puis de faire tomber certains fantasmes. On a commencé à se rendre compte qu'effectivement, sans animation des propositions qui nous étaient faites, il se passait pas grand-chose. Et on a commencé aussi à vérifier ce que ça coûte à l'aménageur de tester de façon transitoire des usages sur l'espace public, tant en effort d'ingénierie, c'est très chronophage, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et aussi en argent, amener des branchements provisoires, permettre l'arrivée d'installations en préparant le sol, en faisant des fondations, accompagner tous ces collectifs de non-professionnels. C'est forcément beaucoup plus chronophage que quand tu travailles avec des professionnels qui ont l'habitude de nos process. Donc, j'ai envie de te dire que c'est presque... C'est devenu naturel. Après, tout le projet... Enfin, il y a beaucoup d'occupations qui ont été testées aussi dans le hangar 30 avec Ping et Millefeuille. Là, c'est des sollicitations directes, avec une possibilité de répondre à la demande, mais avec des choses dont on sait que ce n'est que transitoire, puisque quand le projet urbain sera mûr, il faudra que ça parte. Donc ça a toujours été fait un peu de façon instinctive et naturelle par les chefs de projet à la Samoa. David Polignard mettait très très bien en lien les gens, les opportunités, etc. L'équipe du quartier de la création qui désormais est devenue Creative Factory, parce que quartier de la création, il y a le mot quartier dedans, donc ça bloquait un peu géographiquement l'action, alors qu'en réalité ça peut largement dépasser juste la petite pointe nord-ouest de l'île de Nantes. Donc c'est pour ça que c'est devenu la Creative Factory. Tout ça a encore renforcé cette espèce de mouvement, et on s'est donc forger, non pas une méthodologie systématique, mais on a eu aussi des occupations de l'ordre de R38 avant l'opération des 5 ponts. Où là, on avait aussi quelqu'un qui était sur du City Lab, qui testait des choses avec le voisinage, etc. Donc, à force d'observer ce que ça pouvait produire, on n'en a pas dégagé, comme je te disais, une méthode systématique qu'on applique à chaque fois. Mais on se demande sur certains sites si ça peut, de façon déclinée, de façon adaptée, réinterroger la façon dont on programme les choses. Que ce soit l'espace public, mais que ce soit aussi les rez-de-chaussée des opérations immobilières. On a testé aussi des choses avec e-Link, où on a essayé de créer une association d'habitants et d'usagers. Mais bon, 5 ou 6 ans avant la réalisation concrète et de pouvoir donner les clés, hein, pour participer à la programmation plus précise d'e-Link. Donc, il y a eu la conciergerie, qui notamment était un des acteurs très impliqués, qui a aussi bénéficié entre Reka et Léa Alstom-Bergeron actuelle de l'arrivée d'une préfiguration via le petit prototype rond là, la conciergerie, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, avec les poulaillers derrière et tout ça. Donc c'est plutôt l'agglomération d'opportunités, de tests, qui fait qu'on en est arrivé, par exemple, à Île-Utopia, ou à ce grand chapeau qui est devenu Île de Nantes Expérimentation, et qui rencontre à la fois les besoins de la Creative Factory sur tester des solutions techniques de grands comptes qui cherchent des terrains d'atterrissage, donc en mode plutôt City Lab, ou tester des façons de construire différentes. Ça, par exemple, ça peut être le Hub plus 2, où on s'est dit, bah, là, on est typiquement dans l'expérimentation parce que construire sur un blocos, bah, c'est pas si simple. Alors, ça marche pas. Là, en l'occurrence, Hub plus 2, on peut se dire que finalement, ça n'a pas marché. E-Link, ça a été très long. Green Island, on a appris qu'il fallait pas poser une question trop large, trop open bar, mais qu'il fallait cibler les gens qui allaient répondre et cibler les sites où les questions sont posées. Et on s'est dit aussi que le test d'usage, c'était une autre forme de concertation et que ça permettait peut-être de mettre un peu à distance ce côté institutionnel de la concertation et des ateliers citoyens. C'est à force de réfléchir à ça qu'on s'est dit, eh bien, si on infiltrait un résident, donc on a fait un appel à candidature, dont What Time Is It, Stéphane Juguet a été lauréat, avec la proposition de mettre à disposition le garage Euromaster, qui désormais s'appelle le Wattini Social Club, pour faire une concertation plus proche des habitants du quartier. C'est-à-dire pas seulement via atelier citoyen, institutionnel ou via réunion publique le soir où on a toujours peu ou prou un peu les mêmes profils de citoyens participants, des gens qui ont le temps, des gens qui sont à la retraite, des gens qu'on a déjà vus depuis le début du projet, mais aller vers les familles, les mamans qui travaillent, qui ont les enfants, les populations plus précaires, voire les migrants. Et faire d'une autre façon, l'ambition là, c'était de, une fois qu'on a récolté un peu toute cette matière du citoyen, usager, habitant, pratiquant, travailleur, rédiger un pré-programme d'espace public qui serait le résultat de tests de prototypes. Donc le premier prototype, ça a été le Square Biès. Le second, ça a été la signalétique, le marquage urbain avec toute la signalétique de Catra. Et le troisième, c'est le bus Place Wattignies. L'idée, c'est on voit ce qu'on peut activer, tout en sachant pertinemment que l'aménageur reste un aménageur. Nous, à terme, on fait du hard, On fait de la route, des trottoirs, des places, des parcs, des jeux, des arbres, de la pelouse, des plantes. Mais on n'est pas animateur d'espace public. Donc la question posée aux citoyens, elle est aussi de l'ordre de l'engagement. On veut bien mettre les conditions en place pour répondre à vos besoins, mais derrière, il faut animer, ou il faut s'en saisir, ou il faut utiliser. Donc le square de la Biesse fonctionne très bien en autonomie sur des questions de jardinage, mais la petite box en gestion, ça marche pas très bien. Il faut vraiment un collectif d'habitants engagés ou que le collectif de commerçants se saisisse de ça pour le faire vivre. Sinon, à un moment donné, ça ressemble à une ruine, c'est plus utilisé, les gens savent plus à quoi ça sert, etc. Ça a quand même permis de révéler ce petit square, de déplacer des ordures ménagères. Le prototype auquel on s'attendait le moins, c'est plutôt la signalétique qui a vraiment permis de changer le regard des gens sur leur quartier, de donner une identité au quartier, de le rendre visible au-delà du quartier avec les grands pignons colorés. Il y a même des commerçants qui se servent du graphisme ou de l'identité pour décliner leurs propres enseignes. Et ça, je pense qu'on n'avait pas forcément mesuré ces conséquences-là. Et puis, la place Wattignies, elle est tellement complexe qu'on a le sentiment de ne pas encore avoir abouti une programmation qui réponde à tous les enjeux de l'aménageur, du politique, des habitants. Donc on continue un petit peu l'histoire, on prolonge un petit peu la concertation. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ce que la maîtrise d'œuvre avait proposé pendant la consultation de la nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre sur ce quartier-là. Et finalement, ce qui va être mis en œuvre. Il y a une quantité d'intuition de la maîtrise d'œuvre qui était déjà bonne. Par contre, la priorisation des actions et le périmètre d'action a été quand même un peu revu. Ça, c'est vachement. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant. On est à la fois sachant, mais les micro-informations ou les bruits plus sourds auxquels on n'a pas accès parce que c'est pas des publics qu'on côtoie si souvent, a permis quand même d'affiner le projet de l'équipe de maîtrise d'œuvre et en tout cas de ne pas partir sur des certitudes, notamment pour la place Wattignies. Là, oui, on peut dire que Ilotopia, on a clairement affiché une méthode. On l'a quand même construite en latin in itinere, en marchant. Parce que Stéphane Juguet est aussi un électron libre et qu'on a réadapté notre façon de concerter les résultats. On attendait un pré-programme. C'est pas vraiment un pré-programme qu'ils nous ont produit, mais c'est plutôt une annexe d'un pré-programme sur lequel on s'est appuyé. Par contre, on a vachement forcé l'avis citoyen. La bande des habitants avait voix prépondérante pour le choix du deuxième prototype. Fait partie des avis émis sur le projet urbain définitif au même titre que celui de l'aménageur ou que celui des services de la métropole. Donc là aussi, c'est quelque chose qui a poussé un peu les feux sur l'implication citoyenne dans la façon dont on programme et dont on réalise les espaces publics. Et on s'était dit de cette belle aventure Ilotopia qu'on en déclinerait une méthode sur Faites le parc, la pointe ouest. Or, des inflexions endogènes et exogènes. La réalité du site, qui n'est pas du tout faubourienne, il n'y a pas d'habitants, il y a des gens qui pratiquent la pointe ouest de l'île. Il y a des industries, il y a tous les travailleurs du karting des Écosolis, du Chapidoc, il y a les hangars à bananes, mais on n'est pas sûr de l'habitant, pour le moment. Donc, concerter avec uniquement des usagers, travailleurs, fêtards, ivrognes, gros industriels qui peu ou prou à terme sont plutôt à reconsidérer un départ qu'une inclusion au projet urbain, ça paraît compliqué. L'agenda politique nous oblige à revoir nos priorités, les finances nous obligent à revoir nos priorités, et puis on avait envisagé un urbanisme, une conquête de l'Ouest par la pointe Ouest, vers Béguinsset et Réos, le pont des trois continents. Et la réalité technique d'atterrissage du CHU, le passage des fluides, des réseaux souterrains, d'électricité, d'eau, de gaz, tout ça, finalement, nous a obligés à revoir le sens d'urbanisation. Et aujourd'hui, on urbanise d'est vers l'ouest. On accompagne l'arrivée du CHU. On prolonge Léon Bureau jusqu'au pont des Trois Continents. On passe de l'autre côté de cet axe-là pour vraiment englober le CHU dans un quartier fini. Et pour le reste, on a des grandes intentions, mais qui restent très liées au maintien de l'aéroport, au plan d'exposition au bruit. Est-ce qu'on peut construire de façon libérée, pas libérée? Est-ce qu'on peut faire du logement? Est-ce qu'il y a risque ou est-ce qu'il y a juste nuisance? Toutes ces questions-là qui sont encore un petit peu pas abouti, les grandes négociations avec les grands propriétaires fonciers, le port, la SNCF, pour ne citer que eux, mais qui sont quand même des très grands. T'as plus rien pour enregistrer?
C'était quoi ce bruit?
Je ne sais pas. Un
Non,
message?
c'est bon.
Ok.
Je sais pas.
Donc ces grands propriétaires fonciers qui sont lourd à manipuler et dont les temps de décision dépassent aussi les petites questions à l'échelle de l'île de Nantes. Bien évidemment que le grand port maritime, il a d'autres choses dans son panier à régler avec la métropole qui dépasse largement l'île. C'est la même chose avec la SNCF. Du coup, on est bien sûr de l'urbanisme transitoire. On utilise des opportunités bâties, foncières, pour transformer petit à petit l'île avec des actions très éphémères de l'ordre du festival, quelques jours, quelques semaines. Sans doute que le voyage à Nantes viendra un peu tester des choses dans les années à venir. Plus transitoire, l'occupation du Mine Ouest, qui devient mine de rien, où on va repasser par le travailleur pour coloniser ce type d'espace. On peut pas, d'abord, on n'est pas bailleur, on ne peut pas loger des gens. Hein. Nous, il faudrait que ce soit en partenariat avec quelqu'un d'autre. Et en plus, parce que les aménités ne sont pas réunies pour y faire vivre aujourd'hui des gens. On ne veut pas refaire transfert ou le quai des plantes, ou parce qu'en fait, on voit bien qu'on est sur un flux et pas sur une destination. On voit bien qu'on va souffrir du chantier du CHU pendant des années. Donc encore une fois, les vibrations, la poussière, tout ce que tu veux. Donc, et on essaye aussi d'ores et déjà de mettre en place des actions déjà pérennes. Le parc du rail, par l'ouest. Et sans doute infiltré du hangar à bananes jusqu'à l'arrière du karting des Écossolis. Ça permet tranquillement de faire changer les habitudes des gens sur le stationnement autour des hangars à bananes. Ça permet d'amener d'autres acteurs sur site avec qui on pourra peut-être concerter de façon plus importante, plus d'interlocuteurs. Ça permet d'utiliser du foncier pour ouvrir des cheminements, d'abord provisoires, relier la rue Saint-Domingue directement au hangar à bananes sans avoir à faire tout le tour du faisceau ferré en pointe ouest. À terme, pouvoir prolonger la rue du Sénégal directement aussi vers le nord, vers les nefs de l'éléphant. Ça permet des mutations plus en douceur, mais qui quand même permettent de discuter autour de ce qui sera définitivement. Donc je ne peux pas dire que ce soit un urbanisme transitoire qui est descendant par une volonté politique dès l'origine du projet, c'est plutôt quelque chose qui est le résultat d'une histoire d'un aménageur. Parce que le territoire est ce qu'il est. Déjà pour la première question, je pense que c'est pas mal.
Donc, après, pour tout ce qui est aménagement sur le quai Wilson, cette idée qu'on reste très flou aujourd'hui, pourquoi une volonté de faire déjà le lien à la Loire, de faire que ça soit joli, que ça soit déjà un parc ou l'appropriation pour un parc?
Alors là, il y a beaucoup de choses derrière ça. Les Nantais ont historiquement tourné le dos à l'eau. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a rempli le cours des 50 otages, on a rempli des bras de la Loire entre les quais, Flesselles, le long de la place du Commerce, et puis les îles Feydeau, tout là où passe le tram aujourd'hui. Et lorsque les chantiers navals ont fermé en 87, les Nantais ont tourné le dos à l'île de Nantes. La première phase avec Alexandre Tchémétov, un des enjeux, c'était de reconquérir le cœur des Nantais, de les faire revenir sur l'île de Nantes, et notamment via le lien à la Loire, les ponts, les berges, redonner accès au fleuve, aux Nantais. Ça a tellement bien marché que des années plus tard, la métropole a été quasiment dans l'obligation d'organiser le grand débat autour de la Loire, pour vérifier les envies, les fantasmes, le pont transbordeur, la piscine sur la Loire, c'est la piscine flottante, tout ça, tout ça, tout ça. Donc il y avait une urgence politique à répondre à ces enjeux citoyens autour de la Loire. Et il y avait une idée de l'équipe de maîtrise d'œuvre sur ce parc métropolitain, donner le sud de l'île à la métropole comme une pondération à l'arrivée d'un CHU massif et ou d'un parc très minéral de l'éléphant. Sans doute qu'on s'est imaginé que préfigurer coûterait pas si cher que ça et qu'on pourrait, avec du briquet de broc, assez simplement redonner ce quai aux Nantais et pas aux Bagnoles, tel que c'est aujourd'hui. Sauf que, ben, tu as bien vu l'histoire, l'ouvrage en tant que tel de quai est beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait, notamment pour garantir une sécurité des usages. Les dévoiements de flux de circulation sont évidemment liés à la réalisation d'autres voiries de Chinte, provisoire ou pérenne, selon où qu'on se trouve, donc lié à de la maîtrise foncière, donc lié à des engagements de travaux, donc lié à des validations à la fois financières et politiques. Donc on se rend compte que c'est plus compliqué. La maîtrise d'œuvre a mis énormément de temps à faire le deuil d'un parc de Loire définitif réalisé dans le temps de leur contrat. Donc on est passé par les phases de et donc on va faire du transitoire chic et ensuite on se rend compte qu'on n'arrive pas à faire du transitoire chic pour toutes les raisons technico-financiéro-politiques que tu connais. Donc on fait autre chose. Nous on a cette capacité à réagir aux impulsions internes, externes, financières, politiques, techniques, d'opportunités foncières. Et c'est pour ça que Faites le parc, c'est intéressant, c'est que ça ne va pas arrêter de bouger. On ne figera pas un schéma de colonisation de la pointe ouest. Ça ne représentera que des intentions à instant T en fonction de nos opportunités, de nos capacités de libération de site et d'intervention sur site, et de notre force d'action. On voit bien aussi que envisager des actions transitoires, c'est énormément d'ingénierie. Même si tu peux minimiser l'impact investissement travaux, mais ça reste quand même, pour mémoire, sur 2019-2022, on a 800 000 euros de budget travaux. C'est pas rien. C'est pas beaucoup non plus vu le nombre d'hectares que ça concerne. Après, il faut aussi que nous, on ait une équipe de maîtrise d'œuvre en face qui ait le temps de le faire. On voit bien que c'est difficile. Qu'on ait des chefs de projet en interne qui aient le temps de s'en occuper, c'est difficile aussi. Je suis quand même un peu le service moribond de la Samoa, on peut se le dire. Enfin, la main-d'œuvre, c'est les stagiaires, quoi. Bon. Et la mienne, certes. Et ou des petits bouts de chefs de projet à droite à gauche. Mais là, pour le coup, c'est en termes d'ingénierie, c'est vraiment de la bricolette. C'est un peu le parent pauvre, avec quand même un affichage politique important. Donc c'est là, tu joues, voilà, c'est toute la difficulté du jeu. Mais c'est le jeu.
Après, est-ce qu'il y a alors, un événement qui va me donner des mots-clés pour chercher pourquoi à peu près au même moment il y avait quelque chose de similaire qui s'est passé dans plein de villes, qui est l'occupation de ces friches
Ouais.
par les créatifs?
Ouais. Moi, je crois que c'est un mouvement au moins européen. Tu sauras bien mieux que moi ce qui peut se passer aux États-Unis. Plutôt anglo-saxonne, plutôt nordique. Comme je te disais, entre les années 2000 et 2010, c'est un peu devenu hype underground de squatter des friches. De faire la culture alternative qui n'est pas estampillée, institutionnelle. Je pense que, étant donné la nature des concepteurs, qui sont des archis, des paysagistes, des urbanistes, qui eux-mêmes sont de culture assez facilement underground, squatteurs, politiquement engagés. Eh bien, on est peut-être en France un tout petit peu précurseur. Je crois que c'est surtout une question d'échelle. Nous, on a eu l'opportunité d'avoir une grosse échelle pour le faire. Une grosse friche, avec plein de bâtiments, avec plein d'espaces vides. Mais dans le fond, quand on regarde un peu ce qui se passait déjà ailleurs, on n'est pas si précurseur.
Mais c'est qui elle?
Fais une petite pause. Fais une petite pause parce que